Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
C'est important aussi de même de s'ennuyer, de parfois laisser son esprit vagabonder, de tu vois, tu peux pas être tout le temps dans l'optimisation de tout parce qu'en fait le monde autour de toi n'est pas optimisé. Tu vas toujours te faire bousculer. Tu peux si tu veux prévoir le truc dans ta vie, etc. Tout ne se passera pas comme ça. Donc il faut toujours, je pense, garder un peu de flexibilité, être souple, laisser de la place aux choses qu'on n'a pas forcément prévues.
L'urgence d'être à l'écoute de soi, des autres et du monde. Être à l'écoute pour apprendre à se connaître et comprendre le monde dans lequel on vit, pour trouver sa place et faire société, pour embrasser la complexité et les nuances, apprendre encore et toujours. Cette écoute, Siam Gibril l'a cultivée en créant en 2017 son podcast Génération XX, un des pionniers en France. Elle fait partie de celles et ceux qui m'ont transmis ce goût de l'écoute et du podcast. Elle est de celles et ceux qui, sans le savoir, ont contribué à me faire grandir, à me structurer et à avancer. Cet épisode fait du bien. J'aurais aimé l'entendre quand j'étais perdue, quand je cherchais des repères et des réponses à mon trop-plein de questions. Cet épisode est rassurant quand on y voit flou sur nos envies et nos choix futurs, et réconfortant à tout moment de la vie finalement. J'aime particulièrement la tournure que prend l'interview à partir de 30 minutes, donc je vous encourage à l'écouter jusqu'au bout. Siam nous invite à prendre le temps, à nous détacher de cette fausse nécessité de courir après la productivité, et nous donne de précieuses clés pour arriver à comprendre ce qui est bon pour soi au fil des expériences. Salut Siam.
Salut Victoria.
Je suis ravie d'être chez toi à Paris.
Merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton podcast, je suis ravie aussi de te recevoir.
Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es Siam Gibril, la fondatrice de Génération XX, qui à la base est un podcast, mais qui est aujourd'hui bien plus. Tu mets en lumière des femmes entrepreneurs, initialement, avec ce projet. C'est un podcast que tu as donc pensé en 2016 et lancé officiellement en 2017, et qui a duré 4 ans. Tu l'as fait vivre pendant 4 belles années, et tu as cumulé plus de 6 millions d'écoutes.
Ouais.
Donc un des plus gros podcasts français, qui est incroyable. Et celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite chaudement à aller écouter Génération XX. Donc tu as décidé d'arrêter le podcast au 100e épisode, pour te consacrer à d'autres projets, tu nous en parleras peut-être, mais surtout tu as lancé une revue papier à l'écoute. Et donc aujourd'hui, Génération XX, c'est un vrai média. Donc voilà pour la petite présentation, mais Siam, comme tous mes invités, on va commencer par revenir à ton enfance. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de où tu as grandi et d'à quoi ressemblait la petite Siam quand elle avait 7 ans.
À quoi ressemblait la Siam de 7 ans? C'est une très bonne question. Écoute, je crois que j'étais une enfant hyper vive. Tu vois, j'aimais bien parler aux gens, j'aimais bien, je sais pas moi, faire des choses. Enfin, tu vois, assez... Enfin, voilà, vive, je pense que c'est le bon mot. Assez rapidement, j'aimais beaucoup lire. Et ma mère m'a eu assez jeune, donc je sais pas, j'avais l'impression que j'étais le petit bébé... un peu projet, tu vois, genre ok, on va faire en sorte qu'elle ait des super bonnes notes, qu'elle soit, tu vois, donc j'étais très stimulée, je pense, par mes parents, voilà ce que je veux dire par là. Je me souviens avoir, je sais pas si je me raconte cette histoire ou si je me vois vraiment le faire, mais je pense que j'avais pas mal de, tu vois, d'imagination, j'aimais bien imaginer des histoires et tout, mais quand même voilà, avoir des bonnes notes à l'école, ouais, et bien travailler.
Mais donc voilà, ce côté créatif, littéraire, audiovisuel aussi, un peu média, il était déjà bien présent.
Ouais, complètement.
Et tu as décidé de faire une classe préparatoire suivie d'une école de commerce.
Ouais.
À quoi tu aspirais pour ton futur à cette période-là?
Alors, quand j'étais en terminale, c'est vrai que je savais... En tout cas, j'avais pas idée de tout ce qui existait en termes d'orientation. Bon, je connaissais, je sais pas moi, avocat, enfin les études de droit. Après, bon, tous les métiers, évidemment, professeur, fleuriste, enfin bon, tous les métiers qu'on connaît. Mais dans les métiers qui sont liés, par exemple, à ce qu'on fait après une école de commerce ou après une école d'ingénieur, quoi, en fait, je savais pas vraiment... En fait, je me voyais quand même déjà dans les médias et je me voyais dans le ciné. Et c'est marrant parce que je crois pas du tout avoir envisagé, tu vois, de carrière artistique. Mais parce que je pense que je connaissais, enfin, je savais pas vraiment, tu vois. Je trouve que quand t'es au lycée, c'est vrai que quand même, on parlait un petit peu avant d'enregistrer, t'as cette pression du monde du travail, tu te dis quand même qu'il faut que t'aies un travail et de l'argent et de quoi vivre plus tard.
Oui, on en parlait tout à l'heure, on a eu une discussion hyper riche, je me suis dit mince, il fallait l'enregistrer. Quand on a 20 ans, souvent on se pose plein de questions sur notre avenir, sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, sur ce qui nous plaît, sur comment réussir sa vie. Et donc toi, à cet âge-là, quelles questions un petit peu existentielles tu te posais ?
Alors, comme je te disais tout à l'heure, donc là j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année, et j'ai l'impression de beaucoup plus me poser des questions existentielles maintenant qu'à 20 ans. Parce que du coup, à 20 ans... Sincèrement, je me posais pas énormément de questions parce que, en fait, je trouvais que quand j'étais en prépa, bon, j'avais un objectif qui était passer le concours, donc bah, j'ai travaillé pour passer les concours. Une fois que j'étais en école, j'ai fait partie de l'association du Bureau des Arts. Donc en fait, j'étais un peu concentrée sur, tu vois, mon école, la vie associative. Je trouve que j'étais dans un moment où tout était nouveau. Après, bien sûr, tu avais les interrogations de est-ce que je vais réussir mon partiel, est-ce que je vais trouver un stage. Pas trop de questions, enfin pas autant que maintenant, clairement. Ouais.
Quel type de questions tu te poses maintenant ?
Là, en plus, je suis à un moment particulier parce que j'ai clôturé Génération XX il y a quelques mois, que je réfléchis à quel projet j'ai envie de lancer après. Il faut que je fasse des choix qui, de manière financière, voilà, tiennent la route. Je trouve aussi qu'on projette plus sur l'adulte qu'on sera à 30 ans que la personne qu'on sera à 20 ans. Enfin, en tout cas, je sais pas. Moi, je crois pas qu'à 10 ans, je me disais, tiens, à 20 ans, je serais comme ça. Ça me paraissait tellement loin, tu vois. Alors que je pense qu'au fur et à mesure de mes études, etc., je me suis peut-être... Je sais pas si je me suis projetée à 30 ans, mais je trouve qu'on s'imagine plus des choses. En tout cas, personnellement, c'est le cas. Et donc, forcément, là, tu vois, j'ai plus des questions de... OK, à 30 ans, je pensais que peut-être que, je sais pas, je me disais que c'était ça d'avoir 30 ans, et en fait, je trouve que c'est pas exactement ça.
Tu les imaginais comment, tes 30 ans, quand tu avais 20 ans ?
J'imaginais pas forcément mes 30 ans à moi, mais je trouve que l'image qu'on se donnait de 30 ans, c'était d'être assez sûr de soi, de savoir où on en est dans sa vie, d'être, je sais pas moi, indépendant sur tous les fronts, de savoir exactement où on va, etc. Et en fait, je me rends compte, et pour moi, et comme je te le disais, pour plein d'amis avec qui j'ai cette discussion aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Enfin, en fait... Bien sûr, entre 20 ans et 30 ans, il t'est arrivé plein de choses, t'as vécu plein d'expériences, donc forcément tu te connais mieux, ou en tout cas t'as expérimenté plus de choses, donc forcément t'as vécu un peu plus, quoi. Mais je sais pas, moi je trouve que on est, ouais, la plupart des métiers, on est encore en train de se poser pas mal de questions, je sais pas, sur où est-ce qu'est-ce qu'on a envie de faire professionnellement, quel genre de personne on a envie d'être, est-ce qu'on a envie de construire une famille, si oui, comment, pourquoi, où est-ce qu'on a envie de vivre. Je sais, j'ai cette discussion tout le temps avec plein d'amis de, est-ce que t'as envie de vivre à Paris, au bord de la mer, est-ce que t'as envie de faire la campagne, est-ce que t'as envie de, qu'est-ce qui est important pour toi, est-ce que tu as envie de faire passer ta carrière avant ton épanouissement familial, par exemple, ou est-ce que t'as envie de, je sais pas moi, de faire des CDD parce que ça te rassure de faire des contrats de 6 mois parce que t'as pas envie de t'engager dans un CDI, ou est-ce que au contraire t'as envie d'un poste absolument, enfin en fait je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, il y a vraiment plein de questions, et moi personnellement, voilà, celle que je me pose en ce moment, c'est est-ce que le projet que j'ai en tête, j'ai envie de le lancer, parce qu'il y a des implications en termes de lieu de vie, des implications financières, comme je le disais tout à l'heure, en termes de rythme de travail. Tu vois, je me pose aussi cette question, quelle place j'ai envie de donner au travail dans ma vie, avec quelle personne j'ai envie de travailler. Ouais, quel type de vie t'as envie de vivre maintenant ? Et je crois que, par rapport aussi à ce qu'on se disait un peu avant d'enregistrer, en fait, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de choix qui sont définitifs.
Oui, bien sûr.
Enfin... Et qu'en fait, chaque choix qu'on fait, il correspond à un moment donné, c'est-à-dire, et à différents paramètres. C'est-à-dire que des choix que tu vas faire à 20 ans, ce sera pas forcément les mêmes qu'à 30 ans, tout simplement parce que entre tes 20 ans et tes 30 ans, le monde a changé, les gens autour de toi ont changé, toi-même t'as évolué, et j'ai l'impression que tu dois toujours un peu prendre la mesure des choses, en tout cas, et te dire, OK, à 20 ans, j'ai fait tel choix. Est-ce qu'à 30 ans, j'ai toujours envie de faire les mêmes? Peut-être que oui. Et dans ce cas, bah, au moins, t'es sûr du chemin sur lequel t'es. Et peut-être que non. Et dans ce cas, tu te poses les mêmes questions et tu réfléchis à ce que t'as envie de changer ou pas, tu vois.
Alors, moi, j'ai une question qui me vient. Tu nous parles beaucoup de choix qui évoluent, de questionnements qui évoluent au fil des années. Donc déjà, c'est assez rassurant de se dire qu'on passe toute une vie à se poser des questions, même si elles changent. Est-ce qu'il faudrait, bah, c'est composer avec ces questions-là, apprendre à vivre avec. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et en quoi tu vas trouver des réponses à ces questions-là? Là, par exemple, tu nous disais que tu étais dans une phase un petit peu de recherche sur ce que tu voulais faire après, sur ton prochain projet. Où est-ce que tu vas trouver des réponses? Comment tu te cultives, tu te nourris personnellement pour être le plus à l'aise avec ton prochain choix?
Je crois que ce qui est pas mal, c'est de se laisser le temps. Me concernant, j'ai l'impression que c'est important que je prenne le temps de le faire. Et donc, tu vois, d'avoir déjà, par exemple, sur mon précédent projet, Génération XX, j'ai pris le temps de clôturer. La décision de clôturer au 100e épisode, je l'ai prise en juillet 2020 et j'ai clôturé en février 2021. Donc, il s'est passé plusieurs mois. J'ai pas fait le truc à la va-vite. Là, quand j'ai clôturé Génération XX, tu vois, c'était quand même 4 ans de travail, plein de choses géniales, etc. Bah, je sentais que j'allais pas du tout de suite replonger dans un autre projet. J'avais besoin de temps pour que justement toutes ces questions, en fait, déjà, faire le tri entre toutes les questions, parce qu'il y a des questions, tu vois, qui sont pas finalement très importantes. Tu vois, toutes les questions qu'on se pose ont pas la même valeur. Il y a des questions juste, bon, tu les évacues au fur et à mesure. Je trouve que déjà, prendre le temps, c'est important. Et puis, aussi, c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai l'impression, moi en tout cas, qu'entre 20 ans et 30 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on apprend aussi un peu plus à se connaître. On sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et donc, je pense qu'il faut aussi être assez lucide ou assez clair avec soi-même sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas pour justement faire un choix qui est le plus en phase avec qui on est, tu vois. Et pour faire ça, je trouve qu'il faut... c'est important d'avoir de l'espace mental pour réfléchir à ces questions-là. C'est-à-dire que si là, par exemple, je m'étais tout de suite relancée dans quelque chose, j'ai l'impression que du coup, j'aurais même pas eu le temps, tu vois, de faire cette espèce de transition. Donc je trouve que dans ces moments-là, prendre le temps et, comme on disait, être à l'aise avec le fait que c'est un processus et c'est pas confortable. Tu vois, moi, il y a plein de... Là, de matin, je me suis réveillée avec un nœud au ventre et je me dis oh, « Mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et financièrement? Et ceci et cela ?» Et en fait... Je vais pas régler la question dans la journée. Donc, il faut juste que j'accepte que ça prend du temps. Et je trouve que quand tu commences à accepter ça, ça devient plus simple. Tu vois, même, tu parlais d'inspiration, c'est aussi s'autoriser à réfléchir à d'autres choses qu'aux choses qu'on a en tête. Par exemple, tu vois, moi, je passe pas ma journée à réfléchir à est-ce que je fais tel ou tel projet, est-ce que je me lance. Non, en fait, je vais aussi cultiver juste. Ma curiosité, je vais lire plein de choses et c'est ça aussi qui va me donner des nouvelles idées. Prendre le temps de vagabonder, de laisser son esprit vagabonder, de laisser son esprit s'inspirer de plein de choses. Et en fait, tout ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans ma tête. Ça, tu vois, quand t'as l'impression que t'es dans une, je sais pas, dans une tempête sur un bateau, la tempête va pas durer éternellement, en fait. Et ça sert à rien de lutter contre le truc parce que de toute façon, tu ne maîtrises pas le temps. Tu vois, j'ai l'impression que c'est... C'est ça, c'est un espèce de mouvement, tu vois, de vague ou de montagne russe. Je sais pas l'image qui te parle le plus, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, ouais, accepter que c'est un moment de questionnement, c'est normal, on y passe, on prend le temps et on finit toujours par y voir plus clair, je trouve.
Est-ce que tu penses que cette clarté d'esprit et cette faculté que tu as acquis à pouvoir prendre le temps, justement, de te poser ces questions-là, c'est plus facile à avoir quand on a 30 ans que quand on a 20 ans. Parce que moi, je sais que, je le vois pour moi et aussi pour les jeunes autour de moi, on a du mal à prendre le temps de se poser les questions parce qu'on a une certaine pression sociale, une certaine pression aussi avec les réseaux sociaux. Et quand on a des moments, justement, qui pourraient être utilisés pour réfléchir à ce qu'on voudrait vraiment faire, pour réfléchir à qui on est, on les comble par les réseaux sociaux, par Internet, par des distractions... quoi que ce soit, hein. Ça peut être Netflix, ça peut être les jeux vidéo. Et en fait, j'ai l'impression que quand on est jeune, c'est très dur de trouver ce temps de vide un peu, parce que c'est un peu ça, c'est affronter le vide et affronter les vrais questionnements qui sont nécessaires d'avoir, en fait. Est-ce que tu penses que c'est plus simple, quand on grandit, de se poser ces questions-là et de prendre ce temps-là, ou est-ce qu'on peut tout à fait le faire aussi à 20 ans?
C'est une bonne question. Après, je pense qu'à chaque âge, tu vois, le contexte change. C'est-à-dire que quand t'as 20 ans, t'as pas, enfin, pour la plupart des gens, t'as vécu chez tes parents. 20 ans, c'est peut-être le premier moment où t'es autonome. Donc en fait, il faut aussi que tu vives un peu des choses pour après te poser des questions sur ces choses que tu viens de vivre, tu vois. Donc il faut pas non plus s'en vouloir si à 20 ans, on n'a pas du temps pour se poser les bonnes questions et qu'on se distrait avec un million de choses. Parce qu'en fait, il faut avoir des expériences, il faut tenter des choses pour après se dire, bon bah, est-ce que j'ai aimé ça ou pas? Est-ce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire ou pas? On peut pas. Parce qu'il faut pas confondre en fait... prendre le temps de se poser des questions et être immobile.
C'est ça.
Tu vois,
oui.
En fait, les deux se font en même temps. C'est-à-dire que tu fais des choses, t'as des expériences, tu lances des projets et parfois c'est très important. Je dis parfois, mais en fait, surtout quand on a une envie brûlante et on sait que, et tu vois, c'est une intuition très forte, on sait qu'on a envie de faire un projet, il faut pas trop se poser de questions non plus, tu vois. Je trouve que c'est une sorte de sensation, il faut s'écouter comment on est, tu vois, est-ce que c'est le feu, tu sens que t'es dans un mouvement qui fait que t'as pas trop besoin de te poser de questions parce qu'en fait t'es bien là où t'es, tu vois. On n'est pas tout le temps dans l'inconfort. Hein. Il y a des moments où on est bien, on est content d'être là où on est, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, moi quand je faisais mes études, j'avais l'impression de, enfin j'étais au bon endroit, ça allait, tu vois. Je me disais bon bah ok, je fais ça, je vois. Et puis après c'est dans certains moments que là, oui t'es dans l'inconfort et tu te poses des questions. Et oui, dans ces moments-là, parfois, t'as pas forcément le réflexe ou le temps de te dire, alors attends, on fait le bilan, je me pose, etc. Mais c'est pas très grave, ça viendra, en fait. Et déjà, de se rendre compte qu'on n'a pas le temps de se poser des questions, enfin, tu vois, c'est déjà commencé à être un peu dans un processus où t'arrives à prendre du recul, où t'arrives un peu à réfléchir, etc. Donc, et comme tu disais, chercher des distractions, en fait, je pense que ça va te retomber dessus. S'il fallait que tu te poses des questions, tu vas finir par te les reposer parce qu'en fait, tu vas prendre une décision qui te va pas, une deuxième décision qui te va pas, une troisième, et là, tu vas finir par te dire, ah non, mais attends, stop, il faut que j'arrête de prendre que des décisions qui marchent pas parce qu'en fait, c'est pas là où je dois être, tu vois.
Oui.
Donc en fait, ce moment, il viendra. S'il doit venir, il viendra. Mais je pense que il faut aussi, c'est aussi génial d'avoir 20 ans et de pas trop se poser des questions et
d'ajuster au fur et à mesure.
Et d'ajuster, tu vois. Et après, ce que tu disais par rapport au côté pression sociale, de devoir faire le bon choix, etc. Ça, pareil, je crois que c'est vraiment à tous les âges hein, qu'on peut se poser cette question-là. Mais, et tu vois, il y a peut-être des gens qui, au fur et à mesure, arrivent justement à mettre de côté cette pression sociale, etc. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des gens qui ont 70 ans et qui ont encore la pression sociale sur leur dos et qui font des choix en fonction de, je sais pas moi, le quand dira-t-on, etc. Donc,
tu la ressens beaucoup, toi, encore, cette pression-là, depuis que tu as notamment pris la décision d'arrêter Génération XX?
Je sais pas. En tout cas, en fait, je suis consciente de la pression sociale, mais parfois, en fait, on projette des choses sur ce que serait la pression sociale. Et en fait, la pression sociale, c'est juste, c'est ce qu'on se dit. Il y a pas un livre où c'est écrit la pression sociale, c'est ta da 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 da. Enfin, en fait, parfois, on projette aussi des choses, tu vois. On se dit, les gens attendent de moi. Mais en fait, les gens, chacun fait sa vie. Enfin, les gens ne passent pas leur journée à se dire, oh, mais Siam, vraiment. Tu vois, personne ne pense à moi dans la journée en se demandant tellement quels sont mes choix. Enfin, je ne pense pas.
Ils se préoccupent déjà à leurs propres choix.
Absolument. Et si quelqu'un se dit ça, ça me ferait un peu peur que quelqu'un pense autant à mes choix. Plus que moi, je ne pense à mes choix. Tu vois, donc, je sais bien ce qu'on appelle la pression sociale. Par exemple, je sais pas, à 30 ans, je trouve que la pression sociale, ça pourrait être, mais ça dépend des milieux, encore une fois, mais je sais pas, être mariée, avoir des enfants et ça. Bon, moi, c'est pas mon cas. Bon, voilà, enfin, je suis à l'aise avec ça. Parfois, ça me rattrape, ou même d'être très indépendant financièrement. Bon, parfois, ça me rattrape, et parfois, j'essaie de le remettre à sa place aussi, de se dire, ok, mais, et alors, enfin, je vais pas correspondre à des choix qui ne sont pas les miens. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je trouve que, tu vois, je suis pas un maître spirituel, parfaitement sage, qui ne ressent jamais la pression sociale, mais j'arrive, enfin, quand je la ressens, après, je me dis, non, mais attends, remets les choses à leur place, tu fais ton chemin. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important dès qu'on sent qu'on est en train de se comparer. Parce que, honnêtement, c'est très difficile. Je vais pas dire aux gens, ne vous comparez pas. C'est hyper difficile. Et même moi, je me compare encore, alors que je me dis tout le temps, ne te compare pas. Mais c'est déjà bien d'essayer de se le dire comme ça. Quand on se voit en train de se comparer, on se dit, oh là là, stop. Arrête de comparer, tu n'es pas cette personne.
Oui, d'en être conscient, c'est déjà bien.
D'en être conscient, c'est déjà bien. Comme ça, tu t'arrêtes, tu vois, tu continues pas dans ton scénario mental où t'es en train de te comparer, d'imaginer des trucs, une autre vie que tu pourrais mener, tu reviens, tu dis, non, mais attends, moi, c'est ma vie, mes choix, et tu reviens dans ton chemin, tu vois.
Je sais qu'avant avant de lancer ton propre podcast Génération XX, tu écoutais toi-même beaucoup de podcasts, notamment des podcasts américains.
Ouais.
Je sais plus où j'ai dégoté l'information, mais tu disais que ça t'a énormément aidé d'écouter des podcasts dans tes choix personnels.
Ouais.
En quoi, pour toi, écouter des histoires, écouter le parcours de d'autres personnes peut ouvrir le champ des possibles?
Ce qui m'a aidé justement, c'est que donc j'étais à un moment comme maintenant de questionnement. Donc j'avais été diplômée, j'avais eu mon premier job, un premier CDI, et j'avais quitté ce job. Et donc j'étais dans un moment où je me disais, ok, et maintenant quoi? Donc j'avais 24 ans à ce moment-là, et je me dis, mais déjà à 24 ans, j'ai déjà eu un CDI, mais je suis plus dans la boîte. Qu'est-ce que je vais faire? On m'avait proposé quelqu'un que je connaissais qui voulait monter une boîte et m'avait proposé de peut-être m'associer avec elle. Donc je commençais à réfléchir, mais moi j'avais jamais vraiment réfléchi à monter ma boîte. Donc je me disais, mais est-ce que c'est pour moi ou pas? Je sais pas. Enfin, ok. Donc là je me posais vraiment pas mal de questions à ce moment-là. Et quand j'ai écouté des podcasts, en fait c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai écouté des gens qui étaient plus âgés que moi. 30 ans, 40 ans, ça, et qui justement racontaient qu'ils se posaient plein de questions et qu'ils avaient changé plein de fois de carrière dans leur vie et qu'ils avaient eu des échecs et des trucs qui n'ont pas marché et que c'était pas grave et que c'est ça la vie et ta 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 ta. Et en fait, ça m'a vachement rassurée parce que justement, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est tout à fait normal ce que je vis, même si c'est inconfortable, c'est normal. Et on pourrait se dire, oui, ben bon, d'accord, tu vois que c'est normal, est-ce que ça t'aide vraiment? Bah, c'est quand même un premier pas, parce qu'au moins, tu te dis, c'est pas juste moi, dans ma tête, en train de poser des questions, et plein de gens sont comme ça, c'est pas grave. Donc déjà, ça m'a aidé à ça. Et ensuite, ça m'a aidé aussi, justement, dans les questions que je me posais, à me poser les bonnes questions. Mmh. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on se pose plein de questions, toutes les questions ne se valent pas. Il y a des questions qu'on se pose, c'est des fausses questions, et c'est pas le principal. Et moi, à ce moment-là, la question n'était pas tant, finalement, est-ce que j'ai envie de monter une boîte ou pas? Ce qu'il fallait vraiment que je me pose, c'était, est-ce que j'ai envie de monter une boîte avec cette personne-là? Et je me suis rendu compte que non. Parce que, en fait, on n'avait pas la même vision de ce qu'on appelle le succès, qu'on n'avait pas la même vision de comment on voulait faire évoluer la boîte, qu'on n'avait pas la même relation à l'argent, que tu vois, en fait, plutôt que de me dire est-ce que j'ai envie de monter une boîte, voilà, je me suis dit non mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire réussir pour moi? En fait, est-ce que moi j'ai envie de dépendre d'autres gens? Est-ce que c'est quoi ma relation à l'argent, etc. Je dis pas que j'ai trouvé toutes les réponses à ce moment-là, mais en tout cas ça m'a permis de me dire, en fait, il faut pas que je monte une boîte avec cette personne-là parce que ça va être, a priori, voué à l'échec parce qu'en fait, on n'est pas aligné sur pas mal de choses. Donc, ça m'a vraiment aidé à prendre une décision parce qu'autrement, j'aurais pu prendre la décision de monter cette boîte sur, justement, des critères de qu'est-ce qui fait bien. Oh, c'est hyper stylé de, je sais pas moi, monter une boîte à 24 ans, de lever des fonds, etc. Enfin, ok, mais on prend pas une décision parce que c'est, entre guillemets, stylé ou parce que ça fait bien devant les potes ou parce que ça fait bien devant les parents ou quoi. Parce qu'après, il faut assumer les conséquences derrière et il faut vivre avec la décision qu'on a prise. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, cette personne est très sympa, mais en fait, on va pas s'associer. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, ça m'a tellement aidé d'écouter tous ces podcasts en anglais. À l'époque, il y avait pas encore de podcasts indépendants français. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Génération XX. Et je me suis dit, il faut que des gens qui ont monté des projets, justement, racontent un peu, bah, toutes les questions qui se sont posées, leurs doutes, ce qui n'a pas marché, etc. Parce que ça rassure pas mal d'écouter tout ça. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé à un, me détendre et de me dire c'est normal de se poser des questions, et deux, me dire ok, c'est normal de se poser des questions, mais si tu veux avancer, il faut te poser les bonnes questions.
Moi, j'ai une question qui me surlupine quand même en tant que créatrice de Nouvel Œil. C'est que 4 ans après, tu as pris la décision donc d'arrêter Génération XX. Et donc, je me demande forcément pourquoi. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude qui arrive avec le temps? Parce que j'imagine qu'au lancement de Génération XX, tu étais passionnée. Déjà, est-ce que tu pensais mettre fin au bout de 4 ans à ce projet-là déjà? Ou est-ce que tu t'es dit, je lance ce projet, ça m'appelle, ça me fait vibrer, je verrai ce qui va se passer?
Tu vois, moi, j'essaie d'utiliser le mot clôturer. Je dis jamais que j'ai arrêté le podcast, je dis toujours que je l'ai clôturé.
C'est plus joli, c'est vrai.
Surtout parce que pour moi, c'est vraiment une boucle.
Oui.
En fait, c'était une phase, enfin, pas une phase au sens de quelque chose qui passe, mais plutôt un cycle. Mmh. Tu vois, j'avais 25 ans quand je l'ai lancé, enfin, 24, 25, j'en ai 29 aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu mon projet de la vingtaine. Mmh. Et maintenant, tu vois, j'entre dans la trentaine. Tu dis ça comme si j'allais avoir genre 100 ans.
Je rentre dans la vie des grands.
Ouais, c'est ça. Et je sais pas, il y aura sûrement un nouveau projet, tu vois, mais. En tout cas, quand j'ai eu l'idée du podcast, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je me suis juste dit, j'ai cette idée. Et pour le coup, tu sais, je te disais quand j'étais petite, j'avais plein d'idées, etc. Enfin, j'étais assez vive et tout. J'ai toujours ça. Dès que je pense à une idée, j'ai toujours l'impression que c'est bon, c'est génial. Pas au sens, l'idée est géniale, mais je m'emballe hyper vite sur une idée. Oui. Tu vois, et je me dis, oh, mais oui, il faut faire ça. D'une idée découle mille idées. Genre, j'adore avoir des idées, des projets et tout, j'adore. Donc, en fait, quand j'ai eu cette idée de podcast, je me suis dit, bah oui, enfin, tu vois, je me suis pas du tout dit, il y a plein de gens après qui me demandaient, mais tu t'es pas dit que t'étais pas journaliste. Mais je me suis pas du tout posé ces questions-là. J'avais juste envie de le faire, je l'ai fait, point. Les questions sont arrivées après. Et si, les mauvaises questions que je me suis posées, entre guillemets, j'avais enregistré 5 épisodes en 2016. Et donc, il fallait, à un moment donné, que je me lance pour de vrai en 2017. Et là, je me posais un peu des questions d'ego. Mais si c'est pas bien, mais j'aime pas ma voix, est-ce que je devrais pas changer si ça? Et en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, déjà, personne ne me connaissait. Au pire, les gens n'aiment pas.
Ils écoutent pas.
Eh ben, ils écouteront pas. Si j'aime pas, parce que la qualité du son au début était pas top, bah, ok, il suffit juste de l'améliorer. Enfin, tu vois, parfois, quand je te dis des fausses questions, enfin, c'est pas que c'est des fausses questions, mais c'est des questions qui sont en fait juste de la peur ou de l'ego ou quoi. Donc, il faut dire, ok, je me pose ces questions-là, mais il faut un peu les remettre à leur place. Je dirais qu'une fois que j'ai eu conscience de ce que j'étais en train de faire et de l'impact que ça avait, j'ai commencé à me poser des questions. Moi, je veux que ce truc, il me dépasse. Et en fait, j'ai envie de passer le flambeau et je sens aussi que il y a d'autres choses qui m'attirent, même si c'était pas précis. Je sentais, je sais pas, c'était une sorte vraiment d'intuition très forte que j'avais un peu rempli ma mission, mais j'ai fait ce que j'avais à faire avec Génération XX. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était beaucoup mieux que je choisisse la fin plutôt que justement j'arrive à un moment où j'étais lassée, comme tu le dis, et je voulais pas arriver à ce moment-là en fait. Je voulais pas. Et puis après, il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, mais tu pourrais le développer comme ci, comme ça. » Et moi, je me disais « Bah non, en fait, je le vois pas. Non. » Et à nouveau, quand je te disais « Génération XX, c'est pas moi. » Génération XX, c'est clôturé, mais moi, je suis pas clôturée, tu vois. Moi, je continue à avoir plein d'idées, j'ai plein d'envies. Et c'était un projet que j'ai adoré faire, qui m'a dépassée, je l'espère. Et maintenant, on va voir la suite. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi ? C'est vraiment une intuition très forte en moi et je pense une manière de fonctionner. Il y a peut-être des gens qui se disent toute leur vie, ils ont envie de faire grandir un projet parce que c'est le projet qui leur tient à cœur. Moi, je me dis, toute ma vie, j'ai envie de créer plein de projets. La ligne directrice, bien sûr, si c'est moi qui les crée ou si je participe à d'autres projets, ce sera toujours moi, ma personnalité, mes valeurs et tout. Donc, tu vois, j'arriverai à infuser toujours un peu de moi dans ce que je fais. Mais j'ai pas besoin que le projet reste le même. Donc, voilà, pour répondre à tes questions.
Réponse très complète. Siam, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi réussir sa vie ?
Réussir sa vie ?
C'est un peu une grande question.
C'est mais une grande question.
J'aime beaucoup la poser.
Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'au final, il y a personne, enfin, je sais pas, hein, peut-être, mais qui va, à la fin, tamponner notre vie avec 20 sur 20. Vie réussie ou 0 sur 20, vie ratée. Tu vois, on n'est pas à l'école, quoi. Il n'y a pas de notes. Et dans ce côté réussir, il y a toujours, tu réussis quelque chose quand il y avait un objectif. C'est quelque chose normalement qui doit se mesurer, tu vois. Or, dans la vie, à moins d'avoir une liste de 100 choses que tu veux faire dans ta vie, et dans ce cas, si tu les as toutes cochées le jour de ta mort, là, tu pourras dire, j'ai réussi ma vie. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ça va être très difficile d'évaluer. Enfin, tu vois, on va pas se mettre une note à la fin de notre vie. En fait, notre vie, elle aura été ce qu'elle a été avec les choix qu'on a fait, avec les expériences qu'on a eues, la façon dont on a été avec les autres, la façon dont on a été avec soi-même, etc. Donc, je sais pas ce que ça veut dire réussir sa vie. Avant, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que c'est la réussite? Et j'avais répondu, c'est d'être en paix. D'être en paix avec soi, avec les autres et avec le monde dans lequel on vit. Et parce que ce que j'aime bien dans cette idée de paix, c'est que justement, t'es à l'aise avec les choix que tu fais, etc. Sauf qu'en fait, je me rends compte que même cette définition-là, elle met la pression, parce qu'en fait, être en paix avec avec soi, avec, c'est vachement dur, quoi. Et du coup, si on se dit, alors je suis pas en paix avec moi-même, mes choix, etc., dans ce cas, ça veut dire que j'ai pas réussi ma vie, c'est dur de se dire ça, je sais pas. Donc en fait, peut-être qu'on devrait juste lâcher cette, ce truc de réussir sa vie. En fait, on n'est pas à l'école et on va, personne va nous mettre une note à la fin de notre vie.
C'est sûr.
On aura juste vécu notre vie. Et après, ce qu'on peut se dire, par contre, c'est que on a envie de vivre une vie dans laquelle on se sent bien, en tout cas. Et de faire en sorte de se sentir bien. Et quand je dis se sentir bien, c'est pas se sentir bien tout le temps. On peut pas se sentir bien tout le temps. On aura forcément des moments de merde, pardon, mais des moments où on est triste, des moments où on est en colère, des moments où on regrette des choses. Enfin, tu vois, il y aura forcément des émotions, voilà, compliquées et dans lesquelles il faudra naviguer. Mais en tout cas, si on essaye tout le temps de faire les choix pour être en paix ou bien ou bah peut-être qu'on peut se dire qu'on réussit, mais je sais pas. Franchement, pour être honnête, je me dis que parfois il faut pas trop, enfin il faut pas se mettre la pression parce que c'est hyper dur. Dès qu'on se dit réussir c'est ça et qu'on n'y arrive pas, franchement c'est hyper dur. Et même si je sais qu'il y a plein de discours aujourd'hui où pour relativiser l'échec, etc., c'est pas facile. Donc peut-être qu'en fait le mieux c'est d'arrêter de penser à ça et de juste essayer de se dire je vis ma vie, j'essaye de faire des choix qui, je pense, me sont en accord avec qui je suis au jour, ce jour-ci, tu vois. Et pas non plus trop se mettre une pression par rapport à, justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de comment on se voit quand on a 20 ans, pas se dire, oh, à 20 ans, je pensais que une vie réussie, ce serait ça, 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 et là, j'ai 30 ans et je coche pas les cases, donc ma vie est ratée. Bah, non, en fait, c'est juste ta vie qui a continué, qui a pris un autre chemin que ce que tu as imaginé, et c'est tout, en fait, et c'est pas grave, et tu vas continuer d'avancer, tu vois. Donc, voilà. Après, il y a peut-être des gens qui sont à l'aise avec le fait, justement, de se faire une bucket list de 100 trucs qu'ils ont envie de faire, et ils se diront, j'ai réussi ma vie, et tant mieux. Et je sais pas, moi, je crois que...
C'est vrai que je pense que se détacher aussi de ce mythe de la réussite, c'est se détacher de la comparaison, comparaison aux autres. Parce qu'on se jauge beaucoup par rapport à ça, par rapport à ce que devrait être la réussite, et du coup, on se dit, tiens, mon voisin, il en est où, lui, par rapport à cette jauge?
Complètement, complètement. Et en fait, tu retombes dans un truc, de classe, enfin, tu vois, quand je dis de classe, d'être à l'école, de classement, de qui a la meilleure note, qui a le mieux réussi le contrôle. Mais en fait, là, on fait pas tous le même contrôle, c'est ça le truc. Et en plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc c'est pour ça que le concept de réussite appliqué à la vie, c'est un peu étrange parce qu'on peut pas le mesurer. Ou peut-être que pour savoir ce que c'est réussir sa vie, il faut mettre des critères. C'est comme, je sais pas, si demain je fais un gâteau. Peut-être que pour toi, un gâteau réussi, pour savoir si ce gâteau est réussi, il faut que tu me donnes les critères. Il faut que tu me dises, il faut qu'il soit beau et bon. Parce que ça se trouve, si moi je fais le gâteau et qu'il est moche mais qu'il est bon, je te dirais, il est réussi. Mais il faut définir des critères. Or là, si tu me disais que c'est quoi les critères pour une vie réussie, franchement, je sais pas.
Ouais.
Je sais pas quel critère je te donnerais.
Et tu parlais d'école. Qu'est-ce que tu as ressenti qu'il t'a manqué dans tes cahiers d'école? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apprenne plutôt?
Je pense pas qu'il me manque des choses. En revanche, ce que je pense, c'est que peut-être qu'on mesure pas, et c'est pas grave, mais la chance qu'on a quand on est à l'école d'apprendre autant. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est collège-lycée, on focus un peu sur toutes les contraintes qui sont liées à l'école. Et c'est vrai, c'était des grosses journées hein, quand on y pense. Tu vois, tu fais du 8h, 17h, c'est intense et tout. Mais quel bonheur d'avoir à apprendre des choses. Tu vois tes copains tout le temps. Si t'as de la chance, entretenu par tes parents. Enfin, franchement, c'est pas si mal finalement. C'est hyper riche de... regarder des films, de lire des livres, de savoir des choses qui peut-être te servent pas dans la vie concrète, mais c'est pas grave parce que ça t'enrichit, parce que c'est intéressant, parce que ça te fait prendre de la hauteur, parce que ça te fait comprendre le monde dans lequel on vit, comment était le monde avant, enfin, tu sais, c'est hyper riche, quoi. Et donc, tu vois, plutôt que de dire, quand je repense à ta question, qu'est-ce qui t'a manqué à l'école, je dirais plutôt que c'est l'école qui me manque maintenant.
Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, profitez de vos 4 heures d'amphi, là.
Non, mais même si ça sert pas, c'est pas grave. Tout n'a pas besoin, tu vois, tout n'a pas besoin de servir. On n'a pas besoin
c'est
d'être,
important
on
n'est
pas
ça.
Des robots, on n'est pas dans la tu vois, tout n'a pas, besoin d'être, enfin, moi, je suis comme ça, mais tout n'a pas besoin d'avoir une raison, d'être productif, c'est important aussi de, même de s'ennuyer, de parfois, laisser son esprit vagabonder, tu vois, tu peux pas être tout le temps dans l'optimisation de tout parce qu'en fait, le monde autour de toi n'est pas optimisé. Enfin, tu vas toujours te faire bousculer. Tu peux, si tu veux, prévoir le truc dans ta vie, etc. Ça va pas. Enfin, tout ne se passera pas comme ça. Donc, il faut toujours, je pense, garder un peu de flexibilité, être souple, laisser de la place aux choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et je trouve que l'apprentissage, c'est ça aussi. Et se nourrir, c'est se remplir de choses qu'on n'avait pas forcément envisagées, qu'on connaissait pas avant. Et c'est ça, la curiosité aussi, tu vois. Et je pense d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, ouais, qui sont régis par les algorithmes et qui ont parfois aussi tendance à tuer notre curiosité, notre créativité, parce qu'on nous montre tout le temps les mêmes choses ou les choses qu'on aime déjà. Et c'est important aussi parfois d'aller vers d'autres choses, des choses qu'on n'aime pas parce que ça se trouve on va aimer, ou parce que ça se trouve on va apprendre quelque chose qui va nous, je sais pas, illuminer notre journée, ou tu vois, qui va nous, une rencontre qu'on n'aurait pas pensé faire, et en fait on est ouvert et on rencontre cette nouvelle personne, et derrière ça nous ouvre des portes. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça aussi qui est important, et c'est ça qu'on se rend pas compte quand on est plus jeune et qu'on est à l'école, mais finalement d'avoir toutes ces matières si différentes et tout, c'est à ça aussi que ça nous ouvre. Si tu veux qu'on retourne à ta question sur enrichir la vie, je pense qu'en tout cas ce qui rend aussi une vie riche, à mon sens, donc je parle vraiment pour moi, mais c'est aussi ça, c'est d'être ouvert, au sens d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de découvrir des nouvelles choses, de s'imprégner, de voyager, de lire. Enfin, on a un nombre de ressources et parfois c'est vertigineux et parfois du coup on ne sait pas par où commencer, mais tellement de choses, c'est...
T'es passionnée par la vie, ça se voit.
Bah ouais, je trouve ça... Tu sais, en fait, c'est fou parce que l'année dernière, donc comme on était confinés, je me disais, mais c'est dingue quand même de se dire qu'il y a tellement de choses à voir et là, on peut pas, quoi. Tout d'un coup, et tu te rends pas compte quand tu peux faire plein de choses que tu peux les faire. C'est que quand on... Ok, je vais prendre un exemple de merde. Quand t'as le nez bouché, tu te rends pas compte toutes ces fois géniales où t'avais pas le nez bouché et où tu pouvais juste respirer.
Mais tellement, ou juste quand t'es malade, quoi, que t'es cloué au lit toute la journée, tu te dis, mais
c'est horrible.
Pourquoi j'ai pas pu se profiter hier? J'étais en forme, quel luxe c'était.
Chaque fois que ça m'arrive, je me dis, mais repas, vraiment, la prochaine fois que t'es pas malade, mais vraiment, chéris ces moments parce que vraiment, c'est trop bien. Et je me dis, quand on a la chance de pouvoir voir des choses, rencontrer des gens, lire,
merveilleux, Siam. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour toi. Mm-hmm. La fameuse question de Nouvel Oeil.
Ouais.
Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
J'ai réfléchi à cette question parce que je savais que tu posais cette question. Je dirais... Le premier truc qui m'est venu en tête, là, c'est de se détendre. Et se détendre, ça veut pas dire s'en foutre. Ça veut juste dire que on fait ce qu'on peut et il faut y aller doucement avec se mettre la pression. Parce que c'est pas vivable sinon. Enfin, tu vois, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure de quand tu te compares, quand tu te mets des objectifs qui sont inatteignables, encore plus, tu le disais à juste titre, avec les réseaux sociaux qui nous montrent des images délirantes de ce qui serait entre guillemets la réussite ou de. Enfin, bref, c'est trop, quoi. Donc, je dirais de se détendre en termes de pression. Parce que chaque chose en son temps, enfin, tu vois, la vie est. Pour la plupart des gens, longue. T'as le temps de faire des expériences, de faire des choses. Enfin, et donc, bien sûr, c'est, comme on disait, génial de lancer plein de projets, de faire plein de choses et tout. Oui, c'est vrai. Et vraiment, j'encourage ça. Et en même temps, doucement. Il faut pas non plus que ça devienne une source de pression et qu'on soit dans des spirales où on se met des objectifs inédits. Enfin, trop compliqué à atteindre et qu'ensuite du coup on soit déçu de soi et qu'on se compare et qu'on veuille toujours être à la hauteur de je ne sais quelle espérance, de je ne sais qui, enfin. Donc ouais, je dirais qu'il faut quand même se préserver, et je trouve que tu vois, on parle de plus en plus de sujets autour de la santé mentale, de l'anxiété et qui sont, c'est vrai, entretenus par les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est hyper important de se préserver. Donc c'est pas ça que j'entends par se détendre. C'est génial d'avoir des projets, de foncer à 100 à l'heure et tout, mais il faut aussi se préserver et essayer au fur et à mesure de ses expériences de comprendre ce qui est bon ou pas pour soi être en bonne santé, honnêtement, en bonne santé autant physique que mentale, c'est hyper important, c'est fondamental même. On en a beaucoup parlé pendant le confinement, des jeunes qui étaient isolés, qui du coup étaient privés aussi de liens sociaux parce qu'ils n'allaient plus à la fac ou quoi. C'est difficile, et encore plus quand on est jeune, où on le disait, on se connaît pas forcément, donc on sait pas encore qu'on a des ressources en soi en fait pour passer ces moments-là, et ça peut être encore plus difficile. Donc voilà, préservez-vous, et même si vous avez plein de projets, faites attention à vous, prenez soin de votre santé.
Magnifique, ben merci beaucoup Siam pour ce moment.
Merci à toi Victoria, à très vite.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.